Mondial Sport sur RFI. Cédric De Oliveira.
Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir sur RFI pour un nouveau numéro de Mondial Sport. On va parler cyclisme, sport mécanique, mais aussi du foot féminin, du foot en Europe. Mais d'abord, on accueille dans ce studio Antoine Grenier. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Cédric, bonsoir tout le monde.
Antoine, vous avez une nouvelle fois suivi assidûment ce week-end de coupes africaines et notamment eh bien, la fin du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération ce dimanche et l'AS Oto-Odoyo, je vais y arriver, qui marche sur les traces du Kara Brazzaville.
Le club du nord du Congo s'est qualifié pour la phase de groupe en s'inclinant, certes 2-0 sur le terrain des Ougandais de Kampala City, mais le matelas de 3 buts acquis au match aller aura été suffisant lors de cette rencontre. Contre-retour, les Congolais ont attendu l'heure de jeu pour plier une première fois. La réalisation ougandaise du tout jeune Alan Okello, 19 ans à la 91e, a relancé brièvement le suspense, mais finalement sans conséquence. Première phase de groupe de l'histoire de l'Oto-Odoyo et deuxième de suite pour Kabwe Kivutuka, l'attaquant pensionnaire du Kara Brazzaville la saison passée.
Le sentiment de joie, de bonheur en tout cas, c'est un travail de dur labeur. Avec l'équipe depuis Owando jusqu'ici, il y a eu beaucoup de péripéties, mais bon, voilà, aujourd'hui nous y sommes qualifiés. C'est un grand plaisir pour le pays, quoi. Déjà pour commencer, c'était traverser cette étape. Du moment que c'est fait, il faut viser loin. Du genre, le premier niveau s'est passé déjà le premier tour, et après on verra la suite. Pour l'instant, c'est le premier tour.
Vous avez une préférence sur le tirage au sort?
On va tout prendre. Du moment où on commence à la maison, c'est bien, quoi.
Kabwe Kivutuka, l'attaquant de l'AS Oto-Odoyo au micro de Jean Ruffin Louemba. Pour rappel, le Kara Brazzaville était allé en quart de finale l'an passé dans cette Coupe de la Confédération. L'AS Oto a intérêt à faire aussi bien.
Pourquoi pas ? Évidemment, il y aura donc un représentant congolais comme en 2018. En revanche, c'est toujours la disette du côté des équipes camerounaises.
Le dernier club camerounais à avoir disputé la phase de groupe reste le Coton Sport de Garoua. C'était en 2014.
Cette saison, déjà.
Ça commence à durer. Cette saison, moins de réussite pour les cotonniers. Battu 2-1 au Ghana par la Santé Kotoko après avoir perdu le match aller 3-2 à domicile. Éliminé également, mais sans perdre son match retour, le New Star de Douala, tenu en échec 0-0 par les Kenyans de Gormaya, vainqueur 2-1 à l'aller.
Et puis Antoine, pas de miracle non plus pour les Ivoiriens du FC San Pedro.
Non, le premier match ne leur avait pas laissé beaucoup d'espoir avec une défaite 3-0 en Zambie face au FC Nkana. Les joueurs de Tarek Jani n'auront au moins pas perdu le match retour, conclu sur un nul 0-0, mais leur parcours s'arrête là et l'addition aurait pu être plus lourde sans plusieurs arrêts de grande classe de leur gardien, Ira Tapé Elisier, mais cela n'atténue pas la déception du portier.
La première mi-temps s'est donnée à fond. Vous-même, vous avez bien vu qu'on a eu plus des occasions. Bon, sur deux buts, ben, on est très dangereux. Oh putain, il n'y avait pas d'enjeu. Le but était bien valable. On a eu aussi une dernière chance aussi pour le pénalty, mais on n'a pas pu concrétiser. On avait d'espoir. Bon, on se disait qu'on pouvait faire la remontada ici, mais vous-même, vous avez vu, c'était pas facile. On a fait ce qu'on pouvait, mais ça n'a pas marché. Mais on sait qu'avec le championnat, on va essayer d'arriver et jouer la Coupe, Cafou la Coupe, Ligue des Champions.
Personnellement, vous êtes venu avec un bon esprit dans ce match, étant entendu que vous avez sauvé plusieurs actions de but.
Oui, mais c'est mon devoir de sauver, c'est mon devoir d'assurer derrière. On a eu plusieurs cases. Si on les mettait, c'était déjà fini, puisque moi et la défense, le groupe, on a assuré derrière.
Et en face, Adam Benba, le défenseur ivoirien du Nkana, était lui surtout content d'emmener l'équipe de son pays d'adoption en phase de groupe. La dernière fois pour le FC Nkana, c'était en 2014.
Vous savez, ça date de vraiment longtemps que cette équipe cherchait la qualification des phases de poule. Et aujourd'hui, je pense que le dieu de football était avec nous. On était venu juste pour limiter les dégâts. Et on a réussi le challenge parce qu'à l'aller, on gagne 3-0. Donc on avait un avantage de 3 buts qu'il fallait conserver. C'est ce qu'on a essayé de faire. La pelouse était difficile. On a réussi quand même à tenir l'équipe en échec. On savait qu'ils procédaient par des petites passes et ils veulent forcément passer par les ailes. Et on a essayé de boucler les ailes et on a bloqué l'offensive du FC San Pedro. C'est une jeune équipe qui est en train d'apprendre. Vous savez, c'est pas facile. C'est leur première participation à la compétition. C'est comme ça qu'il faut gravir les échelons. Il faut juste apprendre avec toute humilité et je pense qu'avec le travail, ça va arriver.
Au micro d'Emmanuel Kofi, Adama Benba, le défenseur ivoirien de Nkana, passé également d'ailleurs par Zesco United. Bref, par les deux plus grands clubs de Zambie.
Ouais, Antoine, on parle des autres matchs de ce dimanche avec notamment la qualification pour la phase de groupe du tenant du titre qui poursuit sa route sans briller.
Non, le Raja Casablanca avait un petit avantage après le match aller, celui d'être allé chercher un nul, un partout à l'extérieur et sur une réalisation de son défenseur Bart Banoun. Un peu avant l'heure de jeu, le Raja s'impose 1-0 sur les Namibiens d'African Stars. Une rencontre marquée par deux expulsions en toute fin de temps additionnel. L'Afrique du Nord toujours, ça passe pour le club sportif sfaxien. Les Tunisiens vainqueurs 2-0 des Ougandais de Vipers après être allés chercher le nul 0-0 lors de la première confrontation. Afrique du Nord encore, les Algériens du Sende sortent là l'Al Ahly Benghazi en s'imposant 3-1 après avoir pourtant perdu 1-0 à l'aller. Enfin, les Nigérians des Enugu Rangers passent après leur succès de 1 sur le FC Bantou, champion du Lesotho. Le score était identique à celui de l'aller. Toutes ces équipes qualifiées connaîtront leurs adversaires en phase de groupe demain, à l'issue du tirage au sort.
Évidemment, on en reparlera sur l'antenne de RFI. Allez Antoine, on reste en Afrique pour parler des catégories de jeunes. Il reste 13 jours avant le coup d'envoi du match d'ouverture de la CAN des moins de 20 ans, une compétition qui se déroulera au Niger.
Un double défi pour le pays qui avait accueilli la CAN des moins de 17 en 2015. D'abord parce que le Niger ambitionne à terme de devenir un pays qui compte au plan footballistique sur le continent. Et puis ensuite, parce que la situation sécuritaire reste fragile. En novembre, 8 personnes ont été tuées dans un attentat à Diffa, à la frontière nigériane. Mais même si certaines rencontres de cette CAN U20 seront jouées justement près de la frontière avec le Nigeria, le colonel Djibrila Hamidou Dipelé, le président de la Fédération Nigérienne de Football, affiche sa confiance.
En 2015, on avait joué sur un seul site, le site de la capitale Niamey, où on avait deux stades. Cette fois-ci, on a décidé de mettre un deuxième site, de faire un site sur Niamey et un site à l'intérieur du pays, à 600 km donc de Niamey, sur la région de Maradi. Donc aujourd'hui, en faisant le deuxième site, on pense que les Nigériens vont vivre doublement cette compétition-là.
L'aspect le plus important à l'occasion de cette CAN de moins de 20 ans, c'est la sécurité. Alors est-ce qu'il y a un effectif qui sera déployé dans ce sens?
Bien sûr, les effectifs sont déjà sur place. Écoutez, nous sommes déjà dans cette situation-là depuis un moment. Donc, les gens sont aguerris, les gens sont préparés à ce genre d'événement. Donc, toutes les dispositions ont été prises. Nous sommes conscients de ce que nous vivons aujourd'hui. Maradi, dont je parle, a déjà accueilli des événements. On n'est pas inquiet de ce côté-là. On a pris toutes les dispositions idoines, en tout cas, par rapport au degré de cette compétition et degré de mobilisation de foule, etc.
Djibrila Hamidou Dipelé, le président de la Fédération Nigérienne de Football, au micro d'Ousmane Keïta, la CAN des moins de 20 ans qui débutera le 2 février prochain.
Eh bien, merci beaucoup Antoine Grenier et bonne soirée à vous. On file en Espagne. À présent, on disputait la 20e journée de Liga ce week-end, la première consacrée au match retour. Sachez que le Barça, le leader, joue en ce moment à Leganés. On vous donnera le résultat un petit peu plus tard. Les Blaugrana, qui pour l'instant comptent 3 points d'avance sur l'Atlético de Madrid, vainqueur à Huesca 3-0. Mais le choc de cette journée opposait le Real Madrid au FC Séville à la lutte pour la 3e place. Et c'est le Real qui s'est imposé 2-0 grâce à Casemiro et Luka Modric. Un match solide des hommes de Santiago Solari. Une semaine après une victoire sur la pelouse du Betis Séville, qui laisse présager une fin de saison peut-être plus sereine pour le triple champion d'Europe en titre. À Madrid, la correspondance de Pierre Chaperon.
Cela faisait bien longtemps que le Santiago Bernabéu n'avait pas connu une telle fête. Pour une fois, malgré la pluie et le froid, les supporters du Real ont pu voir du jeu, des buts, de l'envie, trois éléments rares, voire inexistants cette saison en championnat. Pour l'entraîneur de Séville, Pablo Machín, c'est un grand Real qui a battu son équipe.
La réalité, c'est que...
Il y a une réalité et je crois qu'il faut être cohérent. Le Real Madrid mérite la victoire. Il faut le reconnaître qu'ils nous ont été supérieurs. Ils nous ont beaucoup fait souffrir en défense. Ils nous ont dominé. Je crois que nous avons affronté un Real qui est la meilleure équipe actuellement dans ces derniers matchs.
Un Real Madrid qui probablement sera le meilleur de los últimos partidos.
Alors bien entendu, tout n'est pas parfait. Il y a encore du déchet, notamment en attaque. Se pose la question de la mise à l'écart de Isco et Marcelo, encore sur le banc ce samedi. Mais avec un retour en forme de Luka Modric, l'avenir pourrait s'éclaircir. En tout cas, le Ballon d'Or 2018, qui appelait il y a quelques jours ses coéquipiers à la révolte, était satisfait.
Aujourd'hui, nous avons fait un grand match. C'est clair que quand nous jouons comme ça, on gagne des rencontres. Et nous devons continuer de cette manière si nous voulons continuer à l'emporter. Moi, je me sens bien dernièrement, physiquement, depuis un mois et demi, je suis bien et pour moi c'est très important, c'est comme ça que nous devons jouer. Et je pense que nous avions besoin d'une rencontre comme ça pour la confiance, c'est très important de battre un adversaire qui est très bon et qui fait une très bonne saison. Oui, nous avions besoin de faire ce genre de match aujourd'hui.
De retour le Real, pour le journaliste de la radio Onda Cero, Edu Pidal, ça ne fait pas de doute. À moins d'un mois de son huitième de finale de Ligue des Champions contre l'Ajax Amsterdam, Madrid affiche son meilleur visage.
Quand ils sont convaincus par ce qu'ils font, que tout le groupe y croit, tout se passe bien. Mais ce qui est important, c'est de l'implication. Je veux dire par là que Benzema aurait pu déclarer forfait pour cette rencontre à cause de sa blessure à la main. Il ne l'a pas fait, il a voulu jouer ce match. Courtois revenait aussi de blessure, il aurait pu faire l'impasse, il ne l'a pas fait. Reguilón avait la pression parce qu'il remplaçait Marcelo sur le côté gauche et qu'il n'avait pas convaincu dans les derniers matchs. C'est difficile dans un Real qui est très irrégulier à domicile sur ces derniers matchs. Au final, on s'en est bien sorti. Je crois que quand tout le monde est dans de bonnes dispositions collectives, le Real fonctionne bien.
Quoi qu'il en soit, il faudra continuer sur cette voie en championnat. Comme l'an passé, le Real se réveille après un début d'année très délicat, comme si l'arrivée de la Ligue des Champions lui donnait de l'appétit. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Voilà, prochain match pour le Real Madrid, ce sera jeudi en Coupe du Roi, quart de finale aller face à Gérone. En championnat, les Merengues se déplaceront dimanche sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Et puis je vous parlais du Barça tout à l'heure. Eh bien, le Barça qui s'est imposé 3-1 face à Leganés avec notamment un but d'Ousmane Dembélé et de Léo Messi. Le Barça qui compte 5 points d'avance en tête du championnat. Un mot de l'Angleterre, Manchester City. Elle n'a pas manqué l'occasion de rester au contact de Liverpool. Victoire 3-0 sur la pelouse de Huddersfield, la lanterne rouge. City reste à 4 points de Liverpool. Tottenham est 3e à 9 points des Reds après avoir arraché la victoire à Fulham 2-1 dans les toutes dernières secondes. Et puis on jouait évidemment en France, fin de la 21e journée de Ligue 1, suivie par Hugo Moissonnier. Bonsoir Hugo.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Alors dénouement donc de cette 21e journée de Ligue 1 avec un programme chargé ce dimanche. 5 matchs étaient à suivre, dont le toujours très attendu derby Saint-Étienne-Lyon.
C'est en cours à Geoffroy Guichard. Il reste environ un quart d'heure à jouer, un partout. Romain Amouma a ouvert la marque pour les Verts. 21e minute. Égalisation peu après l'heure de jeu de Nabil Fekir, le capitaine lyonnais, le champion du monde, sur penalty à la 65e. Juste vous dire que le derby cette saison, ce n'est pas qu'une question de folklore, puisque les deux clubs se disputent une place sur le podium. Avantage, et c'est assez rare à signaler hein, ces dernières saisons, avantage à Saint-Étienne avant le coup d'envoi. Les Verts 3e avec 2 points d'avance sur l'OL. Et alors qu'on dispute la 79e minute de jeu, c'est toujours le cas. Saint-Étienne toujours 3e avec 2 points d'avance sur Lyon.
Et donc un partout donc pour l'instant, alors qu'on reviendra, hein, vous nous reparlerez donc de la fin de ce match. Le point aussi sur les autres résultats du jour. Pour la première fois depuis la fin du mois de novembre, Marseille a gagné un match.
Oui, rien d'éclatant pour les Phocéens. Ils ont signé un court succès à Caen, 1-0. Une jolie tête de Morgan Sanson a fait la différence après la pause. C'est le minimum syndical, de quoi soulager tout de même un peu les supporters au bord de la crise de nerfs ces dernières semaines. Leur club remonte à la 7e place au classement et met un terme à une série vraisemblable de 9 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Surtout, l'OM confirme ses progrès récents. Et oui, selon le défenseur Bounassar, le club avait déjà montré de bonnes choses malgré la défaite un peu plus tôt dans la semaine. Et c'était à Saint-Étienne, justement.
Petite victoire, mais vachement importante pour nous. Ça fait un moment qu'on l'attendait. Donc, voilà, espérons qu'il y en ait d'autres par la suite et très rapidement. C'est vrai qu'on n'avait pas été chanceux à Saint-Étienne. Dans l'ensemble, on avait plutôt produit des choses intéressantes. Il nous a manqué le résultat. Voilà, on sait très bien que forcément les gens ils vont perdre toute objectivité quand Marseille va perdre. Mais nous, on sait qu'on avait fait un match correct dans l'ensemble. Donc voilà, il fallait garder les bonnes bases pour gagner ce soir. Il faut enchaîner les victoires les unes après les unes. Il n'y a que comme ça qu'on va réussir à remonter au classement.
Et dans ce classement, justement, l'OM a dépassé Rennes et talonne Montpellier, deux prétendants à l'Europe, qui se sont séparés sur un match nul et vierge tout à l'heure. Un résultat qui n'arrange personne. Les deux autres matchs du jour concernaient plutôt la deuxième partie de tableau, même si Bordeaux remonte à la 10e place après un court succès 1-0 face à Dijon, 18e, 1-0 également pour Angers, 14e, aux dépens de Nantes, 15e, c'est le natif d'Abidjan, Angelo Fujini, qui a fait la différence dans les tout derniers instants de la rencontre.
Eh bien, merci Hugo Moissonnier. Vous restez avec nous hein, pour nous reparler de la fin de ce match entre Saint-Étienne et Lyon. Et puis, eh bien, on va parler maintenant de foot féminin. Vous l'avez peut-être vécu sur RFI hier, la victoire de l'équipe de France féminine face aux États-Unis 3-1. C'était le premier match amical des Bleus cette année, un match amical qui doit les mener, eh bien, jusqu'à, enfin, en tout cas, une belle année 2019 jusqu'à la Coupe du Monde qui aura lieu en France. Ce sera l'été prochain. Un match qui a permis à la jeune Marie-Antoinette Katoto de s'illustrer après une drôle de semaine, Eric Chaurin.
Avec ce que j'ai vu ce matin, elle n'est absolument pas prétendante à une place de titulaire samedi.
Qu'est-ce que vous avez vu ce matin ?
Bah, pas grand-chose. Voilà, tout simplement.
Qu'ils étaient durs, les mots de Corinne Diacre à l'encontre de Marie-Antoinette Katoto en début de semaine à Clairefontaine. Convoquée pour la deuxième fois de suite avec les Bleus, la jeune attaquante de 20 ans se retrouvait donc une nouvelle fois sur le banc au Havre hier soir. Mais comme il y a deux mois face au Brésil, la sélectionneur tricolore l'en a fait sortir alors qu'il restait une vingtaine de minutes à jouer. À l'arrivée, après une première occasion ratée, Katoto a dribblé la gardienne américaine et trouvé le chemin des filets à la 78e minute. Corinne Diacre, toujours aussi exigeante, ne s'est pas enflammée.
Elle a fait une entrée timide, parce que je pense que sur son premier ballon, elle doit marquer. Maintenant, elle a fait une entrée satisfaisante, même si je pense que son potentiel doit lui permettre de faire encore mieux et encore plus.
Mais le meilleur est peut-être à venir pour Katoto avec les Bleus. Ses coéquipières étaient unanimes hier soir, à commencer par la Lyonnaise Wendy Renard, celle qui a perdu son brassard de capitaine quand Corinne Diacre est arrivée à la tête de l'équipe de France. Était très heureuse pour celle que toutes appellent Marie.
Très contente pour elle, ça n'a pas été facile. Et petit à petit, elle rentre dans le groupe. Après, comme je lui ai dit, il faut qu'elle se lâche, que je veux la voir comme si elle était à Paris, heureuse. Elle l'aime encore plus avec le sourire, qu'elle soit jeune ou pas jeune, il n'y a pas le temps à perdre. Donc je pense que ce but va lui faire énormément de bien. Je suis très contente pour elle, franchement, ce soir.
Parce que c'est pas simple hein, quand on est piqué comme ça par sa sélectionneur en début de semaine.
Oui, c'est pas simple. Après, ça a été, y a eu des discussions entre elles, donc c'est bien. Et puis, la prochaine fois, ça aurait été mieux que ça se lave entre nous, le linge entre nous. Mais après, voilà, c'est fait. Et comme j'ai dit, il y a eu des discussions entre elles, donc c'est bien. Et puis, la meilleure réponse est sur le terrain. Et je pense qu'elle rentrera dans l'onde.
C'est quoi son plus si elle arrive à jouer au niveau du Paris Saint-Germain ?
Bon, on le voit tout le week-end. Bah, c'est une buteuse. C'est une joueuse qui aime la surface de réparation. Peu importe les situations, c'est souvent cadré. Elle fait souvent mal et puis elle a un gabarit aussi très intéressant, donc quand elle est rentrée, on a vu, elle s'est lâchée, elle a joué, elle nous a fait du bien parce qu'elle a réussi à garder des ballons d'eau au but pour permettre au bloc de remonter. Donc très contente pour elle parce que la semaine n'a pas bien commencé sur le plan personnel, mais ça se termine bien et je pense que le plus important c'est ça.
Jusqu'à conduire Marie-Antoinette Katoto en Coupe du Monde, aux côtés de sa coéquipière parisienne, Cathy Diatou-Diani, double buteuse hier soir.
Oui, forcément. Ouais. Forcément, c'est une coéquipière que je connais bien, notamment ça fait 2 ans qu'on joue ensemble, donc j'aimerais beaucoup.
Et Marie-Antoinette Katoto également, on n'en doute pas, on verra déjà si elle est du prochain rassemblement des Bleus pour affronter l'Allemagne et l'Uruguay dans un mois.
Mondial Sport sur RFI.
Voilà donc pour le football et puis je vous avais souhaité une bonne soirée Antoine Grenier, mais finalement vous avez décidé de rester avec nous.
La soirée est bonne quand même.
Voilà, pour parler de cyclisme et du départ de la Tropicale Amissa Bongo ce lundi au Gabon.
Et une Tropicale qui sera suivie toute la semaine par notre envoyé spécial Olivier Pron que nous joignons immédiatement à Franceville. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Antoine Grenier, bonsoir à tous.
Vous serez donc à Bongoville demain, à une trentaine de kilomètres à l'est de Franceville, pour ce départ de la Tropicale, une 14e édition qui promet parce que le plateau est très relevé.
Oui, sans doute, Antoine, le plus relevé qu'il y ait jamais eu sur une Tropicale Amissa Bongo. Et donc, on peut le dire, hein, en Afrique, sans doute, 5 équipes professionnelles, une sud-africaine, une italienne et 3 françaises qui se livreront, il faut le noter, on en reparlera, une compétition dans la compétition, puisqu'elles viennent, elles visent chacune l'une des 2 dernières invitations pour le Tour de France, carrément, en juillet prochain. 2 places pour 3, verdict mi-mars. Important donc de se montrer dès cette Tropicale. À noter, notamment, dans l'une de ces équipes françaises, Arkéa Samsic, la présence de l'Allemand Andrei Greipel, sprinter aux 23 victoires d'étape dans les grands tours, 11 rien que sur le Tour de France. Les pros donc, et les Africains, 10 sélections nationales, notamment les Érythréens et les Rwandais, avec le tenant du titre, Joseph Areruya, le vainqueur du Tour national en août dernier, Samuel Mugisha, une formation très attendue forcément, son directeur sportif Félix Saint-Poma le sait, et qu'est-ce que ça change ?
Ah, bien sûr que oui, parce que comme on a le maillot de l'année passée et on a une petite pression de regarder jusque même cette édition, même si c'est très difficile de le faire parce qu'il y a des équipes qui sont très très bien préparées. Et alors, je dis pour les équipes professionnelles, ils ont pris la raison l'année passée, en sachant que même les équipes africaines sont capables de le faire. Il ne va pas nous laisser comme ça parce que l'année passée, il ne savait pas qu'on peut le faire et on l'a fait. Et je pense qu'il va nous surveiller de près.
On dit que c'est le plateau le plus relevé qu'il y ait jamais eu à la Tropicale.
Oui, parce qu'il y a des équipes fortes, il y a des nouvelles étapes. Et je pense que ça va être une très très belle compétition cette année.
Vous êtes prêt au combat ?
On est prêt parce qu'on a amené des cartouches qui sont très forts.
Voilà, Félix Sempoma et les Rwandais qui sont prêts. Et il vaut mieux pour eux parce que, Olivier, comme d'autres sélections africaines, ils ont sûrement un bon coup à jouer sur les deux premières étapes de cette Tropicale.
Oui, parce qu'elles sont compliquées et très vallonnées, surtout ces deux premières étapes, entre Bongoville et Mohamda, sur 100 km ce lundi, puis mardi sur 169 km précisément, entre Franceville et Okonja. Et si les Africains ont un coup à jouer, c'est parce que les Européens, traditionnellement, ont besoin de 48 heures pour s'acclimater. Il ne faut donc pas les ménager pendant ces deux prochains jours. Parole d'expert, 17 ans de professionnalisme pour Thomas Vauclair. Maillot jaune, on s'en souvient, sur le Tour de France, qui a disputé la Tropicale à plusieurs reprises. Cette année, il est invité d'honneur. On l'écoute, Thomas Vauclair.
Lorsque les Européens arrivent en Afrique à peine 48 heures avant le début de la compétition, alors que c'est l'hiver en France, en Europe bien sûr, les coureurs africains ont vraiment un réel avantage et ils seraient bien intentionnés de tirer profit de cet avantage-là parce que les Européens, ils vont mettre 2-3 jours à s'acclimater et c'est peut-être là qu'ils sont prenables. C'est vrai que c'est très difficile pour un corps d'un athlète de haut niveau de passer de température de 3-4 degrés en France et puis d'arriver là et de se prendre 35 degrés à l'ombre et de faire 120 km avec des étapes dures.
La course peut jouer à ce moment-là en début de tour, dès le début du tour?
Oui, la Tropicale, c'est une course d'une semaine. Ce qui est passionnant, c'est qu'on ne sait pas comment elle va se dérouler. Il y a 2-3 ans, c'était plié le premier jour, le général. Il y a 3-4 ans, ça s'est joué le dernier jour à coup de 3 secondes. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment sympa dans le sens où c'est pas du tout stéréotypé, c'est pas ce qu'on voit à la télé avec des équipes qui contrôlent et on sait en gros comment ça va se passer. C'est super sympa. Et puis il y a aussi cette notion de partage quoi, que je trouve magnifique. Voilà, il y a des coureurs qui seront au départ du Tour de France, qui courent aux côtés de sélections africaines. Et ça peut, il n'y a que sur la Tropicale qu'on peut voir ça. Ouais.
Voilà, Thomas Vauclair, pour qui la course sera difficile, elle le sera surtout pour les invités que sont les Mauriciens qui vont découvrir la Tropicale.
Oui, alors on n'oublie pas Antoine, les Gabonais chez eux forcément et qui se sont bien entraînés cette année, les Camerounais, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Éthiopiens, les Algériens, les Marocains, hein. On vous a dit que le plateau était relevé. Mais c'est vrai que pour les Mauriciens, cette Tropicale à Missa Bongo, c'est une première pour le tout petit pays qu'est l'île Maurice sur la carte du cyclisme continental. La petite île de l'océan Indien vient pour apprendre, entraînée par le français Michel Thèse. Elle progresse vite. On écoute son directeur sportif Jean-Claude Louison.
Bah c'est sûr, hein, c'est vraiment, ça me fait plaisir de venir frotter, de venir voir les pros. On espère s'en sortir agrandi. On a une jeune équipe, donc c'est sûr qu'on va profiter grandement de cette course. Et certainement que les coureurs vont aimer et vont profiter de cette course. Mais ils ont une très bonne préparation sur l'île Maurice avec Michel Thèse qui s'occupe de l'équipe. Et donc il les a mis en confiance et donc on espère faire une bonne course.
L'idée, c'est d'essayer de s'accrocher pour suivre le peloton le plus longtemps possible.
Voilà, c'est ça le but, c'est de rester là le plus longtemps possible. Profiter de la course et s'accrocher au maximum.
C'est une sacrée expérience hein, quand même.
Ah ouais, c'est sûr. Ça change de nos tours qu'on connaît, les petits tours de Lille hein, et de Maurice, de La Réunion, même des Seychelles. C'est que du bien pour le cyclisme mauricien.
Que du bien pour le cyclisme mauricien. Jean-Claude Louison, le directeur sportif, que du bien pour le cyclisme africain. Voilà donc Antoine pour cette 14e édition de cette Tropicale à Missa Bongo. Rendez-vous demain 11h temps universel pour le départ de la première étape. Et tous les jours hein, sur RFI jusqu'à dimanche, l'arrivée à Libreville.
Olivier Pron en direct avec nous depuis Franceville. Merci Olivier. On remercie également Médard Chablaoui qui vous accompagne pour la technique sur toute cette semaine.
22h54 à Paris. Merci encore une fois à Antoine Grenier. On a encore un peu de temps pour parler du Dakar, 41e édition du célèbre Rally Raid cette année qui a eu lieu au Pérou. La course, on le rappelle, qui se déroule depuis 10 ans en Amérique du Sud pour des questions de sécurité. Succès donc du Qatarien Nasser El Attia dans la catégorie auto et de l'Australien Toby Price chez les motos. Deux hommes sacrés sous les yeux de notre envoyé spécial Eric Sanson.
Une fracture du scaphoïde quelques semaines avant le départ ne laissait pas présager d'un grand Dakar pour l'Australien Toby Price, le vainqueur de l'édition 2016. À cause de son poignet douloureux, le pilote KTM a serré les dents pour se maintenir au contact de ses adversaires qui enchaînaient les victoires d'étape. Très tactique, Toby Price ne prendra les commandes qu'à la veille de l'arrivée. Il l'emportera sur sa moto malgré la douleur. Votre poignet, ça va ?
Ça me fait très mal. Il faut que je voie le docteur pour faire le bilan, mais je suis content d'avoir franchi la ligne d'arrivée.
Mais comment conduire dans ces conditions ?
Il a vraiment fallu prendre les choses calmement et les étapes les unes après les autres. Faire le boulot pour terminer, ces 10 jours ont été difficiles, mais bon, on a gagné, on est content. Gagner le Dakar, c'est ce que tout coureur souhaite. Malgré le poignet, là, je suis sur la lune, je ne peux pas me plaindre.
KTM place 3 pilotes sur le podium, Price, Matthias Wagner, champion 2018, et Sam Sunderland, vainqueur en 2017. Le résultat est cruel pour les autres marques qui ont pourtant bataillé pour contester la suprématie des motos autrichiennes. Que ce soit Joan Barreda pour des erreurs de navigation ou Ricky Brabec qui a cassé son moteur, Honda a perdu ses pilotes les plus en vue. Même désillusion pour Yamaha et le français Adrien Van Beveren, lui aussi lâché par sa mécanique. Le chilien Pablo Quintanilla y aura cru jusqu'à sa chute lors de la dernière étape. Côté voiture, l'arrivée a été triomphale à Lima pour le pilote du Qatar, Nasser Al-Attiyah, et son copilote français Mathieu Baumel, qui a reçu un bien beau cadeau jeudi pour son 43e anniversaire. Cette victoire est la 3e pour Al-Attiyah, qu'il avait emportée pour Mini et Volkswagen, mais la première pour Toyota, la marque qui aligne probablement le plus de voitures dans les rallyes Paris-Dakar, mais sans succès dans la catégorie reine jusqu'à présent. Nasser Al-Attiyah en était d'autant plus satisfait.
L'important, c'était d'aider mon équipe à remporter le Dakar pour la première fois. C'était important pour moi. Sur le plan personnel, la victoire est un sentiment agréable. Mais quand je vois le soutien des gens, ma victoire, elle est là.
Outre Cyril Després, qui termine 5e, deux pilotes français ont contesté la supériorité d'Al-Attiyah, mais en alternant le très bon avec le beaucoup moins bien. Après 2 victoires d'étape, Stéphane Peterhansel a abandonné suite à un choc qui a blessé son copilote, alors qu'il avait déjà beaucoup de retard. Quant à Sébastien Loeb, il repartira sans doute avec des sentiments mitigés malgré sa 3e place. Il s'est montré le plus rapide, a gagné 4 étapes, mais les pannes mécaniques et les erreurs de navigation lui ont coûté cher. Beaucoup d'ailleurs ont souffert d'un parcours très exigeant, comme le Belge Charlie Gottlieb, qui sait de quoi il parle, il en est à 30 Dakar.
Oui, il était quand même assez difficile. Navigation assez pointue, énormément de navigation dans les dunes, ce qui n'est pas évident du tout. Il faut vraiment bien suivre les caps, les distances, réussir à franchir la dune là où ils veulent qu'on la passe. Pas toujours évident.
Quant au Dakar 2020, il devrait encore réserver des surprises, selon son directeur Étienne Lavigne, en Amérique latine ou ailleurs.
Toutes les options sont ouvertes. On a évidemment des chantiers en cours en termes de projets futurs. On en a plusieurs qu'on a conduits depuis plusieurs mois. Et l'Amérique du Sud fait partie de ces scénarios envisageables pour le futur, avec des entretiens au Paraguay, au Chili, au Pérou, bien sûr, et dans les provinces, certaines provinces en Argentine. Donc on continue à travailler sur des scénarios sud-américains, mais on a aussi en tête, et pas simplement en tête, d'autres voyages, d'autres visites prévues dans d'autres pays du monde, afin de voir ce qu'il est possible de faire, toujours dans l'esprit de surprendre nos concurrents.
Eric Sanson, Lima, RFI.
Voilà pour le Dakar qu'on pourrait retrouver sur le continent africain, pourquoi pas dès 2020. Vous l'avez compris, les organisateurs réfléchissent à cette éventualité. Et puis pour répondre à Gabvourn Daba Bourgeois, qui nous a posé la question sur notre page Facebook, qui nous demandait pourquoi la course s'appelait toujours le Dakar, même si elle ne passe plus par le Sénégal. Eh bien c'est une volonté des organisateurs qui ont préféré garder le nom, qui est une marque, un symbole associé au plus célèbre des rallyes raids. Voilà, j'espère que ça répondra aux interrogations de Gabvourn Daba Bourgeois. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir sur les réseaux sociaux, sur cette page Facebook consacrée à Mondial Sport ou encore sur Twitter. Il nous reste quelques secondes, Hugo Moissonnier, Lyon-Saint-Etienne, ça n'est pas terminé.
Oui, le siège lyonnais aux abords de la surface stéphanoise, Lyon qui a failli marquer le but du chaos, 1-1 à Geoffroy et Guichard, le derby tant attendu, statu quo au classement pour l'instant, on est vraiment dans le temps additionnel, il reste quelques secondes à jouer, les Verts toujours 3e, à l'heure où je vous parle, il reste quelques secondes à jouer vraiment, toujours 3e avec 2 points d'avance sur Lyon, 4e.
Eh bien merci Hugo Moissonnier, le débrief de ce derby, ce sera dans Radio Foot International avec un but lyonnais à l'instant, voilà la victoire sans doute lyonnaise, on en reparlera, très bonne soirée à vous sur RFI.